J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme moderne, un peu trop peut-être. En bonne moderne, elle pense qu'il faut rompre avec son passé, de ce passé faire table rase pour s'inventer dans une ivresse, une liberté nouvelle. Elle ne veut hériter de rien, n'être l'enfant d'aucun passé, le produit d'aucune histoire. Elle veut rejouer le geste des avant-gardes du XXe siècle, rompre et même rompre avec la rupture. Son art, elle le veut nouveau, absolument nouveau. Son talent, les formes qu'elle invente, elle veut les produire sans relation aucune à son histoire familiale, ni au passé de sa classe sociale. Du moins, c'était ainsi qu'elle se rêvait avant. Avant de comprendre qu'un art qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir non plus. Avant de comprendre que tous les grands fondateurs furent également de grands héritiers. Mais, amoureuse de l'excès, elle est tombée dans le symétrique. Elle s'est plongée dans l'histoire de sa classe et même de sa race, dans l'histoire de sa famille aussi, et même de sa fratrie. Et finalement, elle a passé plus de temps sur le divan que dans son atelier. Elle avait voulu éviter le passé, elle se mettait maintenant à le ressasser. Elle avait fait comme si le passé n'existait pas, voici maintenant qu'elle n'habitait que lui. Et puis un jour, quelque chose a changé. Elle a compris qu'elle était ce que son passé avait fait d'elle, mais qu'elle n'était pas que cela. Qu'elle était l'enfant de son passé, mais pas seulement. Que son passé lui donnait une histoire, mais nullement un destin. Et que cette histoire, il lui fallait la connaître en effet, mais pour en écrire la suite, pour en inventer la suite. Et les œuvres sont venues, enfin, par lesquelles elle ressaisissait son passé pour aller de l'avant. Elle avait trouvé la bonne distance avec son passé, et c'est pourquoi, enfin, elle pouvait vivre à fond le présent et s'élancer vers son avenir. Mais comment on fait pour trouver ce bon rapport, cette bonne distance à son passé? Comment on fait, aurait dit Nietzsche, pour trouver la bonne quantité de passé? Eh bien, pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir une historienne et écrivaine française dont les aïeux, comme elle l'a raconté dans Proust, roman familial, Prix Médicis, essai 2023, dont les aïeux donc sont des personnages réels de la recherche du temps perdu de Proust, une spécialiste de l'histoire de la psychiatrie et aussi de l'histoire de la littérature, une essayiste qui a publié sur le genre, MeToo ou la cancel culture et qui vient de sortir aux éditions Verdier un petit essai passionnant « Toutes les époques sont dégueulasses », sous-titré « Réécrire, sensibiliser, contextualiser ». Eh bien, Laure Murat, comme vous l'avez, je crois, reconnu, est avec nous ce matin et en sa compagnie. Nous allons nous demander ce que nous faisons de notre passé, surtout lorsqu'il est encombrant.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Laure Murat.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là avec tout votre passé.
Merci à vous.
Alors, on va entrer directement dans cette belle question philosophique que je vous pose à vous, à tous les titres, historienne, écrivaine, professeure aux États-Unis, puis bientôt, je crois, de nouveau en France, descendante aussi d'une famille qu'on retrouve dans les écrits de Proust. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver cette bonne distance avec son passé?
Oui, avec le temps, comme dirait Proust. Le temps avec un grand T. Je n'aurais jamais pu écrire ce livre, donc il fait un retour aussi sur l'histoire de ma famille, oui. mise en perspective avec l'œuvre de Proust, avant l'âge de 55 ou 56 ans quand je l'ai écrit. Je n'aurais pas pu le faire, parce que le temps dépose des couches, sédimente. Ouais. Voilà, il y a une sorte de culture comme ça qui croit, en quelque sorte. Et à un moment donné, on peut avoir la distance suffisante. Alors, bien sûr, il y a des gens qui l'ont bien avant, d'autres qui l'ont ouais. bien après, d'autres qui ne l'ont jamais. Voilà, c'est un problème singulier à chaque personne.
Dans cet essai, donc, sorti en 2023, Proust, roman familial, vous revenez à la fois sur l'histoire de votre famille, sur aussi comment vous avez dû rompre avec cette éthique de classe sociale aristocrate, on pourrait dire. Comment vous avez dû aller vous réinventer même aux États-Unis, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais vous dites qu'il a fallu le temps pour que vous en soyez capable d'avoir cette distance, cette lucidité, cette précision aussi, cette finesse. Et je crois que pendant cette période, vous avez quand même relu 4 fois l'intégralité de la recherche de Proust.
Oui. Alors souvent pour des raisons spécifiques. Alors, la première fois, j'avais une vingtaine d'années. Bon, ça, je découvrais ce monument. Je ne suis pas sûre que j'ai compris la moitié de ce que je lisais. Enfin, si, peut-être, mais pas en tout cas en profondeur. La seconde fois, c'était pour les besoins de ma thèse, ouais. sur le troisième sexe. Donc, je me suis concentrée exclusivement sur l'aspect homosexuel de la recherche.
Quand même énorme, déjà.
C'est considérable.
Le nombre de pages dans la recherche là-dessus, c'est énorme.
C'est considérable. C'est considérable parce que j'ai noté au kilomètre ouais. tout ce qui concernait l'homosexualité. Donc j'ai, je sais pas, 300 pages de notes, ouais. quelque chose comme ça. Bon.
Et juste, je vous interromps, parce qu'après vous allez passer à autre chose. C'est intéressant, avec le recul, avec la distance que vous évoquiez, aujourd'hui, vous diriez que cette thèse, c'est quoi ? Votre thèse, là-dessus ? Le résultat de votre travail ?
Sur quoi ?
Ben, sur l'homosexualité chez Proust, le troisième sexe.
Alors, ça, je peux en parler longtemps.
Hein, oui, mais essayez de le dire en deux phrases.
En deux phrases ? En deux phrases. Eh ben, Proust est favorable à cette théorie du troisième sexe qui serait une âme d'homme dans un corps de femme ou une âme de femme dans un corps d'homme. Ce qui aujourd'hui, évidemment, est une théorie très, très compassée, enfin plus du tout valide. Voilà. Mais c'était celle de Proust et il y croyait très fermement. Avec évidemment ce paradoxe que si vous avez, pour les hommes, une âme de femme dans un corps d'homme, à ce moment-là, vous désirez un homme. Donc, il y a une sorte de hiatus, si vous voulez, puisque et qui reproduit en réalité l'hétérosexualité.
Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Il y avait un journaliste qui avait une phrase très drôle qui disait « Le troisième sexe, celui qui déshonore les deux autres ».
Mais votre thèse, c'est pas ça. Votre thèse, c'est juste de montrer comment cette chose s'est fait jour chez Proust.
Oui. Et évidemment, où il met en scène de façon extrêmement claire le silence qui doit. C'est à la fois, c'est un silence extrêmement bavard, parce que tout doit être caché, on ne doit jamais révéler son homosexualité, et en même temps, le corps, les regards, la voix, tout dit les préférences sexuelles des hommes et des femmes.
Alors pour revenir à la question inaugurale de l'émission, comment trouver la bonne quantité de passé, une question un peu nietzschéenne, vous avez commencé par répondre oui, c'est possible, avec le temps. Est-ce qu'il ne faut pas d'autres ingrédients ?
Que le temps ?
Oui.
Est-ce qu'il ne faut pas d'autres ingrédients que le temps ?
Pour trouver la juste distance,
mais
pour
oui,
être ni dans ce que j'ai appelé l'idéologie moderniste, hein, refuser le passé, ni dans la rumination, ou le ressassement, ou le déterminisme.
Oui, oui. Il faut beaucoup de réflexion. Il faut tout simplement exercer sa pensée critique par rapport à ça. Il y a un vers de Paul Valéry qui est très beau dans Le cimetière marin, c'est « Entre le vide et l'événement pur ». Ben voilà, ça c'est là où il faut essayer de déplacer le curseur, hein, entre le vide, parce que éradiquer le passé, d'abord, ce n'est pas possible, c'est voué à l'échec. Mais en même temps, être totalement conservateur, nostalgique, ça, c'est pas du tout mon cas. Et je pense que c'est mortifère. Et en même temps, ne pas être collé à l'événement pur, justement. Et donc, essayer de trouver cette bonne distance. Donc, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande de l'expérience. Mais tout ça, ça va avec le temps, bien sûr.
C'est beau ce que vous dites. Je connaissais pas cette phrase, entre le vide et l'événement pur.
C'est dans Le cimetière marin.
Et d'ailleurs, c'est un peu tout ce que vous faites... en revenant sur MeToo, sur la cancel culture, et dans ce dernier essai qu'on va évoquer maintenant, toutes les époques sont dégueulasses. C'est cette invitation à la nuance aussi que vous proposez. D'ailleurs, je vais lire le début pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Donc je vous lis, Laure Murat, l'accroche de votre petit essai, toutes les époques sont dégueulasses. Je dis petit, hein, parce qu'il est tout petit physiquement.
Oui, oui.
Il a un tout petit format, il est très mignon.
Il y a 80 pages, c'était...
Mais c'est très intéressant, et c'est très dense, et ça ouvre de très belles perspectives. Alors je vous lis. Faut-il réécrire les classiques de la littérature ? Doit-on réécrire nos livres pour ne pas offenser les sensibilités ? Faut-il adapter les classiques à leur époque ? Etc, etc. Difficile ces derniers temps de ne pas tomber sur ces questions pointant ici la nécessité de réviser le sexisme de James Bond et le racisme d'Agatha Christie, ou là, l'antisémitisme de Roald Dahl. Dans cet espace politique et polémique que sont les guerres culturelles, deux clans s'affrontent. D'un côté, on tempête contre une censure nouvelle, on dénonce la moraline tous azimuts et une réécriture de l'histoire, sous la pression d'une minorité tyrannique, tout droit sortie des campus américains, cet épouvantail yankee où s'épanouissent wokisme, pensée décoloniale et cancel culture. De l'autre, je vous lis toujours, Laure Murat, on justifie la réécriture des classiques en rappelant qu'elle a toujours existé et en s'élevant contre le mythe de l'original qui serait sacralisé. Mais à force d'être monté en épingle par les médias, à coup de confrontations houleuses où chacun campe sur ses positions, la controverse a fini par échouer, tac tac tac, dans une impasse. Et vous concluez, je ne me reconnais nulle part dans ce débat. Alors, Laure Murat, où êtes-vous ?
Eh bien justement, entre les deux peut-être. Qu'est-ce qu'on fait de ce passé ? Parce qu'au fond, c'est ça, la vraie question, c'est ça. sous quel prétexte ou selon quelles exigences on s'arrogerait le droit de réécrire certains textes parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils sont antisémites, misogynes, etc. On peut comprendre cette intention, qui est une bonne intention, dont on sait bien que l'enfer est pavé, une bonne intention et qui en même temps pourrait se justifier par le fait que nos imaginaires sont formés à l'aune de ces livres, de ces œuvres d'art, etc. Donc si vous avez sous les yeux des films qui décrivent des viols à la chaîne, des tableaux qui ne parlent que de viols et de...
De possession, d'enfermement.
Si vous lisez des livres où il est question tout le temps de commentaires racistes, bon, forcément, votre imaginaire est formé avec tout ça. Maintenant, est-ce qu'on va aller rhabiller les femmes du déjeuner sur l'herbe ? Non, certainement pas. On ne va pas corriger les peintures et on ne peut pas corriger le cinéma, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut corriger les œuvres du passé ? Disons que c'est une question valide.
Ouais, voilà. La question se pose.
La question se pose, pourquoi pas ? Voilà. Je vois dans ce problème, dans cette question plus exactement, plusieurs problèmes. Le premier, c'est que si vous commencez à réécrire James Bond, vous aboutissez à un mensonge historique. Ça, c'est ma première préoccupation. Si vous faites de James Bond un proto-féministe, il y a beaucoup de travail, vous ne comprendrez plus rien à la misogynie des années 50. Donc vous aboutissez à un mensonge historique. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on rachèterait une virginité à Ian Fleming, l'auteur de la série James Bond, ou à Agatha Christie, en disant « mais non, pas du tout, il n'était pas raciste, il n'était pas misogyne ».
Mais surtout, il ne resterait pas grand-chose de l'original, en vérité, si on enlève tous les problèmes.
Mais surtout, alors, j'ai gratté un peu, parce que moi, au début, j'y connaissais rien à cette histoire, mais à cette polémique. Mais je voyais bien que rien ne fonctionnait bien ensemble. Et je crois que dans ces questions de guerre culturelle, c'est toujours la même histoire, la question est mal posée. Bon. La deuxième chose que je vois dans ces nettoyages de textes, c'est en fait, ça s'appelle le caviardage.
Nettoyage éthique.
Nettoyage éthique, on peut dire ça. Donc, mensonge historique, et deuxièmement, vous privez les opprimés de l'histoire de leur oppression.
Et donc de la connaissance qui pourrait les libérer, en quelque sorte.
Et donc, si vous dérobez l'objet du débat, ben, il n'y a plus de débat. Et ça, je suis contre. Et de la même façon que quand j'avais écrit ce tout petit livre aussi qui s'appelle « Qui annule quoi ?» sur la cancel culture, j'étais pour le déboulonnage de certaines statues, parce qu'il n'y a pas de raison d'honorer des criminels dans l'espace public. La plupart de ces statues ne sont pas des œuvres artistiques, c'est de l'art officiel. Ouais. Et c'est une façon d'honorer des criminels dont on voudrait faire des grands hommes. Non. Alors, Emmanuel Macron avait dit « La France ne reniera pas son passé ». Il n'y a aucune... Ce n'est pas de refaire l'histoire que de faire ça. L'histoire, elle se fait dans les manuels, dans les archives et dans les musées. Elle ne se fait pas dans l'espace public. Mais en revanche, si on déboulonne des statues, ce qui est à ma faveur, il ne faut pas détruire ces statues. Exactement pour la même raison. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a honoré, quand, comment... Et quand est-ce qu'on a décidé de ne plus l'honorer ?
Voilà, donc ce que vous proposez, c'est une mise en contexte, une contextualisation, de prendre des précautions, de monter en conscience, de monter en connaissance, mais de ne pas effacer.
Exactement.
Et c'est ça la distinction que vous défendez dans le livre entre réécrire et récrire. Au sens où réécrire, ce serait faire ce nettoyage éthique qui, comme vous le dites, pourrait priver les opprimés de l'histoire même de leur oppression. Mais réécrire, ça peut être soit simplement contextualiser, soit aller plus loin en réécrivant l'histoire du point de vue, par exemple, d'une personne racisée qui a été invisibilisée, mais qui deviendrait le narrateur d'un nouveau livre.
Exactement, comme a fait Percival Everett, qui est un écrivain américain magnifique et qui a écrit ce livre qui s'appelle James... qui écrit Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, qui n'est plus étudié aux États-Unis à cause du fait qu'il y a le fameux N-word, puisqu'on ne peut pas prononcer le mot nègre en anglais. Il n'est plus étudié, mais en revanche, Percival Everett a refait en quelque sorte les aventures de Huckleberry Finn en donnant la parole à l'esclave Jim.
Et bien justement, on va écouter Percival Everett.
You know, if somebody came in here right now and said, hey, you N-word, am I going to be less offended if they use the word No. That focus on the word misses the point. I don't care about the word. I care about the intention. I care about the meaning. I'm not impressed with attempts to cover up anything.
Alors, Laure Murat, vous qui enseignez aux États-Unis, on vous laisse traduire d'abord et nous expliquer.
Ah bah c'est magnifique, ça c'est une archive que je ne connaissais pas, c'est magnifique. Donc lui, il dit qu'il n'est pas en faveur de la suppression du mot « nigger
ouais. »,
hein, qu'on ne peut pas prononcer hein, aux États-Unis.
C'est je sais.
Un cas...
Ni en Angleterre.
Ni en Angleterre. C'est très rare les mots tabous dans une langue. Je ne crois pas qu'on en ait en français. On n'est pas très encouragé à dire « youpin », par exemple. Hein, bon. Mais ce n'est pas un mot interdit, qui est bipé, comme ouais. on l'entend dans l'archive. Et donc, ce que dit Percival Everett, il dit qu'il n'est pas pour la suppression des mots, parce que comme tous les écrivains, il n'est pas pour la censure.
Voilà.
C'est ça, le gros, l'important. Et il dit « je ne... » Me fait pas, le mot, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est l'intention qu'il y a derrière. Et il a parfaitement raison, bien sûr.
Mais finalement, ce que fait Percival Everett en faisant de cet esclave un nouveau personnage plus central et un narrateur, c'est exactement ce qu'a fait Kamel Daoud dans Meursault contre enquête. C'est le même débat. Il y avait cet arabe qui s'appelle l'arabe dans L'étranger de Camus. Eh bien, lui, au lieu de proposer de réécrire l'étranger avec cet arabe qui serait mieux nommé, par exemple avec un prénom et un nom, il a écrit tout un livre dans lequel eh bien, il prend la parole, enfin même son frère d'ailleurs,
son frère
prend la parole et le fait sortir de l'invisibilisation. Et c'est la même démarche en fait.
Oui,
parce qu'au moins, c'est de la création.
Mais c'est ça. Alors, c'est là où je vais revenir juste deux minutes sur cette histoire de réécrire et réécrire. J'ai profité, comme une astuce, si vous voulez, de la double orthographe du mot réécrire en français. On peut l'écrire réécrire avec deux E ou réécrire avec un seul. Bon. Donc, parce que je crois que c'est là où la question était mal posée et le débat était en train de s'embrouiller, si vous voulez. Réécrire, bah, c'est les adaptations. Hein, au cinéma, au théâtre. Puis tous les écrivains réécrivent. Hein, quand on écrit, écrire, ça n'existe pas d'une certaine façon. On passe son temps à réécrire.
Le traducteur presque aussi.
Le traducteur, bien sûr, ça fait partie des réécritures, en effet. Tout ça, ce sont des actes créatifs.
Ouais.
Bon, de création.
Vous voulez dire que la visée est esthétique, au fond.
La
c'est
visée
ça.
Est esthétique.
Ouais.
Et puis, les petits caviardages, là, qui sont en général, d'ailleurs, des suppressions... un peu cosmétique comme ça, parce que vous ne c'est pas en supprimant un mot ici ou là que vous allez effacer l'esprit du texte.
Si l'idéologie est raciste ou antisémite,
exactement,
elle va
ça
demeurer.
Voilà, ça, on baigne dedans de toute façon. En plus, en grattant un peu, je me suis rendu compte que j'ai vraiment analysé les corrections, elles sont complètement incohérentes. Alors, on enlève le mot « nigger » pour « noir », ça pour « black » ou « African-American ». Bon, ça va. Et puis à côté, ben, on laisse des commentaires absolument effarants sur les Coréens qui seraient inférieurs dans la hiérarchie des mammifères aux singes. Enfin, des choses comme ça. Donc, ça n'a aucun sens.
Ouais,
c'est ça le problème.
Et ben, écoutez, on va écouter les Kings pour faire résonner cette distinction que vous faites entre la réécriture à visée esthétique et la réécriture à visée simplement morale.
Ships.
C'était les Kings, merveilleux morceau, This Time Tomorrow.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Laure Murat, historienne, écrivaine française, et nous évoquons, Laure, votre dernier livre, Toutes les époques sont dégueulasses, dans lesquelles vous opposez un petit peu à l'idée qu'on va caviarder les grands textes classiques en enlevant les mots qui gênent, les mots qui blessent, et vous proposez plutôt une contextualisation, une réécriture. Et d'ailleurs, petite remarque, vous avez ce titre, Toutes les époques sont dégueulasses, qui est emprunté à Antonin Artaud. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand on connaît la citation exacte, Antonin Artaud dit « Toutes les époques sont dégueulasses quand on est dans l'état dans lequel je suis ». Mais vous êtes dans quel état, vous ?
Moi, je suis dans un état proche de l'Ohio, je ne sais pas. Oui, bien sûr, j'ai sorti la phrase de son contexte. Enfin, je donne le contexte parce que, pour qu'on sache exactement. Mais en même temps, quand vous lisez « Toutes les époques sont dégueulasses », tout le monde vous dira « Ah bah oui, c'est vrai ». Ou alors... Aucune ne l'est,
bien sûr. Alors, je reviens sur votre distinction. Vous dites, au fond, ça sert à rien d'enlever un adjectif, d'enlever un mot blessant, parce que l'idéologie demeure, l'intention demeure. C'était aussi ce que disait Percival Everett. Ce qui compte, c'est l'intention. Mais d'ailleurs, pour vous donner raison, on peut se référer à tout ce que fait l'extrême droite, notamment sur des réseaux sociaux, dans des publications. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot arabe, alors ils prennent l'emoji arbre. Et c'est un message subliminal pour dire les Arabes. Ils ne veulent pas utiliser le mot juif, alors ils prennent l'expression « dragon céleste » et ils se comprennent entre eux très bien par ce qu'on appelle le « dog whistle », c'est-à-dire un ensemble de messages subliminaux. Et pour les Noirs, ils utilisent l'emoji noix, une petite noix. Donc vous voyez bien que ça vous donne raison, ça ne change rien en fait. Le racisme demeure, l'antisémitisme demeure. Alors que vous, ce que vous proposez, c'est que ça reste de l'art et de la création. Et puis il y a cette belle idée comme ça de contextualisation. Je voudrais qu'on développe un peu cette idée. Ça veut dire quoi contextualiser ? Parce que si c'est simplement pour faire une préface, pour expliquer que Hergé était un homme de son temps, ça n'a pas changé grand-chose.
C'est ce qui s'est passé avec Tintin au Congo, qui est un album, comme on sait, très problématique, où les Noirs sont dépeints comme des demeurés, enfin bon. Et il a été beaucoup reproché à Hergé. C'est aussi l'album qui est le plus vendu hein, de toute la série des Tintins. Bon. Il y a eu une préface de fait, mais ouais. Malheureusement, elle ne va pas dans le fond des choses. Parce qu'une préface, ben oui, ça doit contextualiser, mais pas simplement de dire « Bon, ben, à l'époque, tout le monde était comme ça, voilà, on était favorable à l'idéologie coloniale, etc. » Oui, en effet, il y avait 8 millions de spectateurs pour l'exposition coloniale et 4 000 pour l'exposition surréaliste anticoloniale. Donc ça donne l'étiage, en effet, de ce qu'on pensait à l'époque. Ouais. Mais pour bien faire, il aurait fallu, par exemple, étudier les BDistes et contemporains et la représentation des Noirs à l'époque pour avoir un point de comparaison. Bon, ça n'a pas été le choix du préfacier qui était beaucoup plus soucieux de défendre le grand homme plutôt que d'exercer une pensée critique par rapport à tout ça.
Pensée critique, c'est le mot important, Laure Murat. On va vous écouter argumenter un petit peu après, mais d'abord, écoutons justement Hergé.
Alors, je suis frappé par une tendance politique que vous aviez qui peut-être n'est plus celle que vous avez aujourd'hui. Vous étiez particulièrement raciste à l'époque. Tintin au Congo, alors là, c'était le petit noir. Et vous preniez pour un vrai blanc.
Oui, bien sûr. Mais je pense que je ne me singularisais pas. Ça paraissait aller de soi que de toute éternité, les Noirs étaient faits pour servir les bons Blancs qui étaient là-bas. Enfin, nous envoyions d'ailleurs de bons missionnaires, des hôpitaux, des chemins de fer, que sais-je encore, tous les bienfaits, entre guillemets, de la civilisation.
Alors, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous êtes aujourd'hui, si vous avez changé.
Ah, mais évidemment.
Si vous êtes transformé, ce sont les événements qui vous ont changé ou votre nature était différente?
Peut-être ma nature, les événements m'ont fait changer. Enfin, puis j'ai évolué comme tout le monde évolue.
Alors, est-ce que c'est ça, une contextualisation? Ça ne suffit pas.
En tout cas, j'observe que je crois que c'est Jacques Chancel qui l'interroge. Ouais. Je lui dis, vous étiez raciste? Il dit oui.
Genre comme tout le monde?
Comme tout le monde, voilà. Mais non, ça suffit pas. Ça suffit pas. J'ai pas envie de refaire le procès.
Mais surtout, c'était pas vrai. En fait, c'est surtout ça le problème, c'est que tout le monde n'était pas raciste.
D'abord, tout le monde n'était pas raciste. Genre, c'est exactement à la même époque où Hergé fait Tintin au Congo, vous avez Georges Simenon qui revient, qui était lui-même favorable à la colonisation Il est allé au Congo, il a rapporté une enquête où il est revenu effaré par ce qui se passait. André Gide, voyage au Congo, retour du Tchad, il a dénoncé toutes les exactions. Donc ce n'est pas vrai, on pouvait très bien savoir. C'est toujours la même histoire, quand on veut vraiment savoir, on sait. Et tout le monde, non, n'était pas raciste. Et tout le monde, non plus, n'a pas travaillé au service d'un fasciste, qui était l'abbé Wallez, comme Hergé l'a fait. L'abbé Wallez a fait 5 ans de prison à la Libération. Hergé était maurassien, il était un homme de droite, il était raciste, bien sûr.
Alors votre essai, très petit bijou jaune que j'ai entre les mains, toutes les époques sont dégueulasses, est sous-titré « Réécrire », donc on a compris, et non pas « Récrire », « Sensibiliser », contextualiser. Alors, on aimerait bien que ce soit possible et que ça suffise, mais ça veut dire quoi, par exemple, si on fait l'analogie entre un livre qui serait préfacé et un tableau, voilà, de Gauguin ou de Picasso, ou même de Nicolas de Staël, parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas cette contextualisation. Aujourd'hui encore, vous allez à Orsay, vous allez au Louvre, on ne vous dit pas que Gauguin était pédophile, on ne vous dit pas, aujourd'hui, on ne le dit pas que Picasso, il devrait être en prison pour séquestration, comme beaucoup de rappeurs d'aujourd'hui, et lui, il a fait la même chose, hein, et il n'est pas en prison, et on ne le dit même pas. Donc, quelque part, je comprends l'agacement de ceux qui voudraient carrément canceler et qu'on ne voit plus ces œuvres-là, parce qu'on n'a même pas cette contextualisation.
Je suis ravie de vous l'entendre dire. Il y a un livre qui est paru il y a peu qui s'appelle « Soyons woke, plaidoyer pour les bons sentiments ». Alors c'est un peu une provocation, mais en même temps, c'est Pierre Thévanian qui a écrit ce livre et que j'ai trouvé très intéressant. J'ai envie de dire « Soyons woke, mais avec méthode ». Vous voyez, pas en caviardant les textes, ça c'est une vraie mauvaise idée, à mon avis. Enfin, je le démontre dans le livre, j'espère. Mais en revanche, on a plein d'outils. En effet, vous avez raison, les cartels, les préfaces, les appareils critiques, les conférences, ou disons, même en un quart d'heure, introduire le dernier tango à Paris, parce que je fais allusion à cette polémique qu'il y a eu à la Cinémathèque, hein, où le président de la Cinémathèque a refusé qu'il y ait simplement une introduction au début du film pour dire tous les problèmes qu'il y a eu sur ce tournage.
Bah oui. C'est dingue qu'il ait refusé ça. Et du coup, on comprend qu'on se radicalise dans l'extrême inverse, puisqu'il refuse le minimum.
Bien sûr.
Ouais.
Et je crois que c'est une exigence contemporaine, elle est très légitime. Moi, je préfère savoir plutôt que de ne pas savoir.
Bah oui.
Et pour ce motif, je veux voir les choses dans leur intégrité, mais avec une introduction.
Exactement. Vous savez, on entend souvent ce bon mot de Gide qui est devenu un cliché. On ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Et on a quand même l'impression qu'on souffre encore d'une valorisation de l'artiste génial qui est nécessairement un salaud, un insensible, parce qu'il est dévoré par sa passion créatrice. C'est ça aussi qu'il faudrait casser. Moi, ce que j'aime quand je vous lis, c'est qu'on sent qu'au-delà de cette question de la réécriture, vous voulez qu'on repose la question de l'art et de la morale, mais sans tomber dans la moraline, comme aurait dit Nietzsche. Il ne s'agit pas de moraliser l'art, mais d'intégrer un critère moral parmi d'autres, parmi les critères esthétiques. Regardez par exemple ce que vous dites sur Simenon, c'est passionnant. On ne le sait pas que c'était un mec bien. Et pourquoi ne pas le savoir? Pourquoi simplement ne pas monter en conscience? Et ça pourrait être ça, le bon wokisme.
Absolument. Je pourrais pas mieux le dire que ce que vous venez de faire. Je crois que au fond, toutes ces guerres culturelles qui forment des polémiques, on pense maintenant par injonction. Alors vous êtes pour ou vous êtes contre, hein, et donc tout est comme ça, très polarisé. Je trouve que c'est pas comme ça qu'on pense. Je crois qu'il faut aller regarder un peu plus avant dans les œuvres et voir ce qu'elles proposent. Mais ce que je crois fondamentalement, c'est que ça revient toujours à la même question, qui est l'autonomie du statut de l'œuvre d'art.
Oui.
Et le statut de l'œuvre d'art, comme vous savez, a gagné son autonomie sous le romantisme, hein, pendant le romantisme. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'autonomie de l'œuvre d'art? C'est-à-dire que l'œuvre d'art doit être débarrassée de tout programme religieux, justement moral.
Mais ça veut dire aussi, pardonnez-moi de vous interrompre, qu'on sépare l'homme de l'artiste. Ça veut dire ça aussi.
Voilà,
parce que si l'œuvre d'art est autonome, on ne va pas s'intéresser à la vie privée, au respect des enfants,
exactement,
des femmes, voilà.
Et ce statut de l'autonomie de l'œuvre d'art, à mon avis, est à repenser, comme le statut de l'auteur, avec un grand H, ce statut de l'auteur, il est à repenser également. On l'a bien vu avec l'histoire de Benoît Jacquot, par exemple, ouais. Disant, ben oui, on était dans pleine politique des auteurs au cinéma, et évidemment, le prestige de l'auteur, avec un grand A, permettait, il le dit, m'a permis d'exercer, voilà, mes pressions, enfin, sur les très jeunes filles, voilà, ça lui permettait de séduire qui il voulait comme ça. Voilà, et surtout de justifier le fait qu'il sortait avec une fille de 14 ans.
Et donc, du coup, ce qu'il faudrait repenser, c'est plus globalement le statut de l'artiste. À mon avis, je pense qu'il faut en finir une fois pour toutes, d'ailleurs, avec la séparation de l'artiste et de l'homme. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'arrête pas de nous parler de l'artiste par rapport à ses mécènes, par rapport à ses cocktails mondains, par rapport à ses prétendues influences. Ça, c'est pas de l'œuvre non plus. Pourtant, on nous bassine avec ces choses relativement inintéressantes. Et quand on vient invoquer la vie privée, le respect moral des gens, on dit « Ah non, c'est pas de l'œuvre ». Ça n'a aucun sens.
Mais ça n'a aucun sens. Regardez Polanski, par exemple. On ne va pas recommencer avec Polanski. Mais Polanski, il s'est servi toute sa vie, et c'est bien son droit, de sa vie pour faire des films sur la Shoah, sur ce qui s'est passé avec sa femme, etc. Enfin, sa première femme. Donc, bon, on ne nous explique pas qu'il y a une... C'est grotesque. Par ailleurs, j'aimerais quand même préciser, on dit toujours, faut-il séparer l'homme de l'artiste ? J'aimerais bien qu'on dise aussi la femme de l'artiste.
C'était Spiltab assis.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec l'historienne et écrivaine Laure Murat. Nous parlons, chère Laure, de votre dernier essai. Toutes les époques sont dégueulasses, avec ce titre emprunté à Antonin Artaud. À partir de ce point de vue, à savoir, on ne va pas caviarder les œuvres, on ne va pas éliminer les passages compliqués, mais peut-être proposer autre chose, de la réécriture, donner la voix à des personnages d'habitude invisibilisés, ou bien sûr contextualisés. Eh bien, on est allé un peu plus loin dans la réflexion, et au fond, sur le rapport... À repenser, je crois, c'est ce que vous dites en tout cas, entre l'art et la morale. Et pour bien comprendre votre position, il faut peut-être dire une chose qu'on n'a pas dite, mais qui est basique, c'est que vous êtes tout simplement contre toute censure. On n'a même pas dit ça, mais c'est peut-être ça la base.
C'est le principe numéro un. J'ai pas beaucoup de principes dans ma vie, mais j'ai celui-là. Et Bernard Noël, le poète qui est mort aujourd'hui, orthographiait le mot censure avec un S. Parce que vous privez les choses de sens quand vous censurez.
Oui, c'est
très grave.
Alors prenons un exemple concret. Si vous relisez Mon chien stupide de John Fante, moi j'adore John Fante, il y a quand même un passage vraiment écœurant où en gros il drogue sa femme et elle est à moitié endormie et il la viole. Là, il y a des scènes comme ça, on se dit, ben, même si ce n'est pas notre principe, on serait presque tenté de se dire qu'il faudrait censurer. Vous en pensez quoi ?
Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, enfin, il y a une minute, je suis contre la censure, je veux pouvoir lire ça. Il faut aussi préciser une chose qui est très très importante. Mon chien stupide est une fiction, c'est un roman. Ça ne veut pas dire que John Fante fasse l'apologie du violeur sur une femme sédatée. Évidemment, ça résonne complètement différemment après l'affaire des viols de Mazan. Quand on lit ça aujourd'hui, on arrête de lire le livre, c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Mais il faut bien comprendre qu'on est dans l'espace de la fiction, ce n'est pas la réalité. Je crois qu'aujourd'hui, et ça c'est très important, on ne fait plus cette différence. Elle était encore très importante il y a 30 ans. Mais depuis 30 ans, même plus que ça, 50 ans, est arrivée l'autofiction. On est dans une littérature de plus en plus naturaliste et de plus en plus autobiographique. Et je voyais quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui était professeur dans le lycée, qui me disait, les très jeunes gens on peine à comprendre des textes qui sont à la troisième personne du singulier.
Ouais.
Il faut que ce soit je, et qu'il n'y ait, alors là pour le coup, aucune différence entre l'homme et l'artiste, ou la femme et l'artiste.
Voilà. Alors, prenons un autre exemple, Lolita. Vous en pensez quoi ? Parce que je vous ai entendu parler, ça me paraissait intéressant d'avoir votre regard sur Lolita pour comprendre votre position nuancée.
Alors, un grand chef-d'œuvre, incontestable chef-d'œuvre, qui commence par le fait que Humbert Humbert, donc le pédocriminel dont il va être question tout au long des 400 pages ou 500 pages, c'est un gros livre, sort de ce qu'on comprend être un asile psychiatrique. Donc déjà, vous avez le ton est donné. Il est considéré comme un malade mental. Et il va violer une enfant de 12 ans. Tous les mots sont là. Nabokov est très clair sur cette question et il s'en est défendu dans une émission célèbre à Apostrophe avec Bernard Pivot en disant c'est une pauvre enfant de 12 ans qui est violée par un malade.
Bien sûr, et d'ailleurs dans cette émission, il essaye de casser la mauvaise compréhension de son œuvre.
Exactement, et il a bien raison. Cette émission, d'ailleurs, la description de cette émission avait été reprise par Neige Sino dans son très beau livre Triste Tigre, où elle aussi, elle défend Nabokov. Donc, immense livre, là-dessus, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, et là, j'aimerais beaucoup insister, il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est l'énorme responsabilité des éditeurs. Je ne parle là pas de contextualisation.
Même de couverture, je suis sûr.
De couverture, bien entendu. Qu'est-ce que vous voyez sur 99% des couvertures sur Lolita en poche ? Une petite aguicheuse.
Qui a plutôt 16 ans que 12.
Qui a plutôt 16 ans que 12. Qui est très maquillée, avec des lunettes en forme de cœur, comme le film de Kubrick avait fait une interprétation très tendancieuse, pour ne pas dire autre chose, du livre. Et au fond, qui justifierait les tendances pédocriminelles de Humbert Humbert à cause de cette nymphette qui l'attirerait dans ses filets. Donc, on dénature complètement l'œuvre de Nabokov par des images et par un mythe qui entoure ce texte. Donc, c'est toujours pareil. Retour au texte et retour au texte intégrale.
Et d'ailleurs, ça pose aussi un autre problème qu'on n'a pas évoqué dans l'émission, mais qui est présent dans votre texte, c'est l'argent. C'est que si ça se trouve, s'ils mettent une nymphette de 16 ans et pas de 12 ans sur la couverture, c'est pour vendre plus de livres. Et peut-être que s'ils veulent caviarder un peu Agatha Christie, c'est juste pour vendre des livres. Ou Roald Dahl.
Mais bien
et dans
sûr,
ce cas-là,
parce que
c'est pas pour des raisons morales, mais pour des raisons financières.
Mais bien entendu. Et là, il y a une collusion malheureuse entre les bonnes intentions, disons, de gauche, et le capitalisme sauvage qui veut continuer à faire marcher la poule aux œufs d'or, qui à un moment donné, c'est forcé, va devenir ringard. C'est obligé, c'est, la, ouais. c'est le temps qui fait ça encore. Voilà.
Encore ce temps, l'ami proustien que vous évoquiez au début. Mm. Pour bien comprendre votre position sur la contextualisation, je reprends les deux exemples, Mon chien stupide de John Fante et Lolita. Est-ce que vous pensez, alors on a compris la question de la couverture, qu'il faudrait, puisque les gens n'arrivent même plus à distinguer la fiction de l'autofiction, etc., est-ce qu'il faudrait des préfaces quasiment obligatoires, par exemple pour expliquer que c'est de la fiction de John Fante, ou pour expliquer que clairement Nabokov a expliqué que son livre c'était ça et pas ça?
Ben, c'est une excellente question, c'est drôle que vous me la posiez, parce que j'y pensais pas plus tard qu'il y a 3 jours, en me disant, mais au fond, est-ce qu'on va être obligé désormais, puisqu'il y a une telle confusion dans le débat public sur ces questions, de faire des préfaces systématiques?
C'est pourquoi pas, au fond.
Ben, pourquoi
c'est
pas.
Peut-être mieux que parce d'effacer que, des œuvres.
Ben, une préface, on est libre de la lire ou de pas la lire. Mais ne prenons pas les gens pour des demeurés, vous voyez, non plus. Enfin, les prendre pour des demeurés, ce serait caviarder les textes.
Ouais.
Ils ne seraient pas capables, de, justement, de faire la différence. Mais une préface, bah, ça peut aider, justement, dans des temps de confusion. La lecture a beaucoup changé, hein, depuis l'avènement des nouvelles technologies. On ne lit plus de la même façon. On lit sur Internet, on clique, on passe d'une chose à l'autre, bon... On regarde surtout des images, bon, etc. etc. Ben, peut-être qu'il faut accompagner l'acte de lecture pour le faire aimer encore davantage.
Et c'est d'ailleurs aussi un certain rapport au passé. Ça veut dire que contextualiser, c'est revenir dans le passé et expliquer dans le présent de ce passé comment la chose pouvait être perçue.
Exactement.
C'est finalement un travail d'historien aussi.
Bien sûr, bien sûr. Et justement, de mise à distance... Et surtout, sans position de surplomb, je crois que c'est ça aussi la question. Hein, ne pas surplomber un texte en disant « toutes les époques sont dégueulasses ». Mais ce n'est pas seulement le passé qui est dégueulasse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la poutre qu'on a dans notre œil aujourd'hui. Hein. Les angles morts, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Et qu'est-ce que dans 30 ans ou 50 ans, les gens vont dire en disant « ah ah, dans les années 2020, ils ne voyaient pas le traitement des animaux dans les textes, etc. Oui, »
Voilà. Donc vous voulez dire, plutôt que d'être obsédé par le passé qu'on voudrait nettoyer, faisons déjà attention à ce que peut-être dans le présent, on n'est pas capable de voir.
Exactement. Déjà, ça serait déjà pas mal.
Alors, avant de conclure l'émission, Laure Murat, je voudrais revenir sur un texte que j'ai adoré de vous il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, qui s'appelait « Relire, enquête sur une passion littéraire ». Moi aussi, je suis un maniaque, j'ai relu « L'étranger de Camus », je pense, 30 fois. Vous avez relu 4 fois « La recherche », par exemple. Pourquoi cette passion pour la relecture? Et évidemment, comment on peut la faire résonner par rapport à l'apologie d'aujourd'hui qu'on a faite de la réécriture?
Alors, j'ai fait ce livre, qui est sous forme d'enquête d'ailleurs, parce qu'il y a des entretiens avec une vingtaine de très grands lecteurs et lectrices. Mais j'ai fait ce texte parce que moi-même, je ne suis pas une relectrice. Alors, le seul livre que j'ai relu 4 fois, c'est La Recherche.
C'est pas mal, quand même.
Voilà. Dont, d'ailleurs, la 3e fois, c'était pour ce texte sur la relecture.
Relire, oui, cette enquête.
Et donc, comme ce n'est pas dans mes habitudes de relire, enfin, je suis professeur de littérature, donc je suis obligé de relire beaucoup les textes. Mmh. Mais ça, c'est professionnel, je dirais. Mais sinon, comme ça...
Le plaisir, non.
Pour le plaisir, non. Non. Ou alors je feuillette, mais... Donc j'ai voulu en savoir davantage sur cette pratique qui est très partagée et qui est très intéressante, parce que, vous savez, on dit toujours faites-moi visiter votre bibliothèque et je vous dirai qui vous êtes. Avec la relecture, on entre encore plus profondément dans la personnalité de quelqu'un et ses obsessions, au fond. Donc ça m'a passionnée, d'autant que la relecture est aussi... une obsession de l'enfance, on adore relire les mêmes textes,
tout à fait, les contes,
on veut entendre
histoires,
les mêmes histoires, on veut que le ton soit mis exactement au même endroit. Bon, ça c'est la...
Et je trouve que ça pose une très belle question philosophique, enfin deux d'ailleurs. Est-ce que ça peut être 2 fois pareil? Peut-être c'est jamais 2 fois pareil. Et d'ailleurs, ce qui est peut-être jamais 2 fois pareil, c'est nous. C'est peut-être une façon de montrer, enfin c'est comme ça que j'avais pris votre travail à l'époque, mais j'ai peut-être mal compris, c'est une façon de suggérer qu'on n'a pas d'identité fixe au fond, puisqu'on ne relit jamais 2 fois de la même façon, donc on n'est pas la même personne.
Bien sûr, et ça c'est aussi une question très proustienne, puisque l'évolution du moi est en perpétuel progrès hein, dans la recherche.
Oui, j'irai pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que quand on lit la recherche, enfin je parle à une spécialiste, surtout que c'est votre famille, mais... Il y a quand même cette idée, souvent, que le narrateur revient sur son passé. Et évidemment, il a changé. Il n'est plus le même à 20 ans, à 40 ans. Mais pour autant, il y a un mysticisme spiritualiste au milieu. Il y a quand même cette idée qu'au cœur du changement, quelque chose demeure qui indique peut-être l'immortalité de l'âme. Auquel cas, il y aurait quand même, in fine, une identité.
Ça, c'est la littérature. Hein. Ouais. C'est ça la vraie vie, selon le narrateur. Et surtout, ce que Proust nous dit, c'est que le temps n'est pas extérieur à nous, mais il est en nous. Et là, ça répond à ce que vous disiez il y a 5 minutes, sur cette histoire de relecture. Hein. Le temps est en nous. En effet, il ne peut pas y avoir 2 fois la même chose, il ne peut pas y avoir 2 fois le même texte. Hein, lu, et ben, ça sera encore un texte différent. Et surtout, on réagira différemment à 20, 30, 40 ou 50 ans au même texte. Et c'est ça, on dit toujours que c'est ce qui fait la valeur des grands classiques. C'est-à-dire qu'on peut les relire
indéfiniment. Quoi. Voilà. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, on ne lit jamais 2 fois de la même façon le même chapitre. Merci beaucoup Laure Murat de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. Je vais essayer de résumer, comme je fais pour chaque invité, la philosophie de la vie qui est la vôtre et qu'on a entendu ce matin, et qu'on a aussi lu dans votre petit essai « Toutes les époques sont dégueulasses » sorti aux éditions Verdier. Alors évidemment, c'est un peu attendu, mais quand même c'est ça que vous défendez, une philosophie de la nuance, de la délicatesse, toute proustienne, une philosophie qui nous invite à sortir des guerres culturelles, à arrêter de se ranger dans un camp et à essayer d'analyser avec plus de finesse les choses, et notamment dans ces choses, eh bien de regarder le passé comme quelque chose qu'on peut en partie réinterpréter, en partie réinventer, et surtout contextualiser pour mieux le comprendre, et mieux le comprendre, ça n'est surtout pas l'effacer. Je dirais aussi une philosophie de la créativité, puisque vous avez milité pour ça, pour que si on réécrive, ce soit en faisant une nouvelle œuvre et pas en caviardant les œuvres du passé. Enfin, j'ai beaucoup apprécié entendre chez vous ce projet, peut-être inachevé, mais vous avez encore d'autres livres à écrire, de repenser le rapport de l'art à la morale, mais sans tomber dans la moraline, comme dirait Nietzsche. Autrement dit, cette très noble ambition, merci beaucoup Laure Murat, d'intégrer la visée morale dans l'art sans pour autant le moraliser. Merci beaucoup Laure Murat.
Merci beaucoup.
Cette émission a été préparée très très bien, merci beaucoup, par Estelle Gapp, Audrey Carme et Laura Dumez. À la programmation musicale, Valentine Chedebois, que je remercie pour ce sublime morceau des Kinks, This Time Tomorrow. Émission réalisée à la perfection par Antoine Larcher, avec à la technique Gaspard Guibourget.